J'ai déjà parlé des enfants narcissiques qui sont devenus adultes et tous les problèmes que cela peut poser. Et là, on va inverser un petit peu la donne. Et dans cet épisode du Psy chez vous, je vais vous parler du parent narcissique et de ses enfants adultes. Peut-être est-ce que je vais parler de vous. Bienvenue au Psy chez vous.
Avec la guitare. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.
Avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif comportemental ainsi que hypnothérapeute. J'ai également un programme de guérison en ligne pour les gens qui sont ou qui ont été dans une relation narcissique, quelle qu'elle soit. Alors, ce n'est pas un truc du genre thérapie de groupe, ce sont des vidéos et vous y allez à votre rythme vous-même. Vous pouvez en savoir plus en allant sur mon site de guérison, revivre.club. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, déjà, on va commencer par... Qu'est-ce que l'enfant a appris à faire pour survivre dans une relation narcissique avec un parent narcissique? Et l'enfant qui a été élevé par un parent narcissique va très tôt, avoir un ensemble de stratégies d'adaptation qui vont lui permettre de traverser l'enfance avec le moins de dégâts possible. Il va trouver des réponses automatiques parce que l'environnement avec un parent narcissique, voire deux, est totalement imprévisible. Alors déjà, il va y avoir une forme d'hypervigilance aux humeurs. L'enfant va très tôt apprendre à lire l'état émotionnel du parent avant même d'entrer dans la pièce. Le ton de la voix, la façon de poser un verre, la vitesse à laquelle il marche. L'enfant va devenir un expert de détection précoce du danger. C'est, ne serait-ce que si on doit demander quelque chose, on sait quand trouver, ou on essaye de trouver, parce que ça rate, des fois ça rate, on essaye de trouver le meilleur moment pour poser la question, la meilleure formulation possible, on teste l'humeur, et cette hypervigilance reste active à l'âge adulte, dans toutes les relations, même quand il n'y a pas de danger réel, ce qui peut devenir problématique. Après, il y a l'effacement de ses propres besoins. Parce que pour l'enfant, dans la famille où il y a un narcissique, un parent narcissique, avoir des besoins dans cette famille, c'est risqué. Réclamer de l'attention au mauvais moment, ça va déclencher une réaction. Donc l'enfant apprend à ne pas avoir de besoins, ou tout du moins à ne pas les exprimer, hein, parce que les besoins, on les a. Il apprend que ses émotions, ça peut être ou bien dangereux, surtout si on les exprime, ou alors totalement inutile parce que ça ne servira à rien. Et à l'âge adulte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à identifier ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Mais ça peut être dans des choses totalement bénignes, hein, comme lui demander ce qu'il veut manger ou quel travail lui plaît vraiment. Là, la personne risque de bloquer. Après, il y a la performance qui est une monnaie d'échange. Il y a certains enfants qui vont apprendre que la seule façon d'obtenir de l'approbation, ça va être d'être excellent. Les notes, les succès, les récompenses, tout ça, ça devient des outils pour mériter de l'amour. L'amour est toujours conditionnel chez un narcissique, que ce soit un partenaire ou un parent. Mais on va rester sur les parents. À l'âge adulte, ça va donc être des personnes qui vont travailler deux fois plus que tout le monde, qui vont être incapables de s'arrêter et qui, paradoxalement, ne vont jamais se sentir suffisamment bons. On va très souvent voir le syndrome de l'imposteur chez ce genre de personnes. D'ailleurs, j'ai un programme sur malka.academy contre le syndrome de l'imposteur. Puis vous avez le sabotage qui peut être une protection. Donc d'autres enfants, au contraire, ils vont apprendre à ne pas dépasser le parent parce que réussir trop bien, c'est une menace. Donc ils vont s'arranger pour échouer au bon moment. Ou alors, tout simplement, ils sont persuadés, à force de dénigrement, qu'ils sont totalement nuls. Et donc, ils vont s'auto-saboter. Et ça, c'est un schéma qui peut durer également toute une vie. Tout ce que cela a en commun, c'est que l'enfant a appris à s'organiser autour des besoins du parent et jamais autour de ses propres besoins. Donc, il va avoir développé un sens très aigu de ce que l'autre ressent et très peu de ce que l'enfant ressent lui-même. Et ça, c'est une compétence relationnelle qui peut être très bien dans certaines situations, mais qui, à la longue, finit par vous coûter très cher. Deuxième point important, ça va être que ces schémas, ou certains de ces schémas, vont se répéter dans les relations adultes. J'en ai déjà touché quelques mots là, dans le point précédent. Mais il va y avoir certaines de ces adaptations vont se transporter tout à fait intactes dans les relations adultes, donc et spécialement dans les relations amoureuses. Très souvent, vous allez avoir des gens qui vont avoir une forme d'attrait pour l'imprévisible. Vous avez un enfant qui a grandi dans un environnement qui était totalement imprévisible. Il n'a jamais connu autre chose. À l'âge adulte, et ça c'est quelque chose que j'ai entendu de beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients et de clientes, une relation stable, prévisible, ça va lui sembler fade, pas très intense, il n'y a pas beaucoup de réalité. Par contre, une relation où l'autre est tantôt chaud, tantôt froid, tantôt présent, tantôt absent, les montagnes russes, en quelque sorte, ça, il connaît. Il appelle ça de la passion. En fait, c'est pas de la passion, c'est tout simplement de la familiarité. C'est autre chose. Puis, vous en avez certains, alors pas tous, qui vont prendre le rôle de réparateur. Ça va dépendre du rôle que l'enfant a joué dans sa famille. Mais si vous avez eu un enfant réparateur, c'est-à-dire un enfant qui a passé des années à réparer son parent, à essayer de le rendre heureux, à désamorcer ses colères, à essayer d'obtenir son approbation, à l'âge adulte, il va reproduire cette tentative avec ses partenaires. Il va tomber amoureux, ou elle va tomber amoureuse, de gens qui ont, là je donne des coups de poing au micro, qui ont besoin d'être sauvés. Il va s'épuiser à aider, à essayer de comprendre, à excuser, à justifier, etc. Et quand ça ne marche pas, parce que surtout si on parle d'un conjoint narcissique, par exemple, d'après cette personne, ça va être parce que j'ai pas suffisamment essayé. Donc à tous les coups, vous perdez. Et puis il y a également très souvent une forme de cécité à tout ce qui est signaux d'alerte. C'est-à-dire que des comportements qui devraient vous alerter dès le début d'une relation, des sautes d'humeur bizarres, des contrôles, des critiques déguisées en blagues, mais c'est pour rire, un isolement progressif. La personne qui a été enfant de parents narcissiques va considérer ça comme normal, quasi normal. C'est une personne qui a vécu ça pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est son référentiel. Donc, ces signaux d'alerte ne vont pas l'alerter, justement. Point numéro 3 qui peut être très important, ou qui est très important, c'est... Alors, il y a plus de points que les 5 que je vais nommer, mais ça va être certains des points importants. C'est la voix du parent qui va rester dans la tête de l'enfant devenu adulte. C'est une voix qui s'est installée pendant l'enfance. Et puis... Alors, c'est pas une phrase qui a été dite un jour, même si... Quand vous en parlez à votre psy, par exemple, vous allez citer une ou deux situations, donc on pourrait croire que c'est quelque chose qui a été dit une ou deux fois. Mais c'est pas vrai. C'est quelque chose qui a été répété dans plusieurs situations, et ça devient une voix intérieure qui tourne en boucle, tout simplement. « Oh, t'exagères !» Ça, c'est quand quelque chose vous fait souffrir. La première réaction, c'est de vous dire « Oh, c'est de ma faute, c'est moi qui en fais trop, c'est moi qui suis trop sensible. »« Oh, t'es égoïste quand tu penses à toi !» Et là, ça fait que si vous commencez à mettre des limites, vous allez avoir une culpabilité très intense, très immédiate, même quand la limite est totalement raisonnable. Et encore une fois, si vous êtes dans une relation narcissique, et il y a beaucoup de chances pour que vous soyez tombé dedans, c'est quelque chose qui va être utilisé par le conjoint narcissique ou la conjointe narcissique. Oh, tu n'y arriveras jamais seul de toute façon. Là, vous devenez, il y a une dépendance chronique à la validation extérieure. Il vous est impossible de prendre une décision sans chercher l'approbation de quelqu'un d'autre. Et enfin, vous dites « Oh, t'as pas à te plaindre, il y en a qui sont bien plus mal lotis que toi ». Et là, vous avez une impossibilité à exprimer une souffrance sans devoir vous justifier et vous minimiser et vous excuser davantage. Ça a un nom en psychologie cognitive, c'est ce qu'on appelle l'introjection. C'est-à-dire qu'on a intériorisé la voix du parent à tel point qu'elle est devenue indiscernable de votre propre voix. Et la plupart des gens qui vivent ça ne réalisent pas que cette voix même si c'est la leur, en fin de compte, leur a été transmise de l'extérieur. Ils pensent que c'est leur propre jugement sur eux-mêmes. Donc, identifier cette voix, ce que j'appelle le lutin, que des fois j'appelle Adolphe ou Benito, ça dépend, c'est souvent le premier tournant d'identifier cette voix. Après, maintenant, quand vous arrivez dans la relation à l'âge adulte, avec le parent narcissique, en fin de compte, il y a trois possibilités, il y a trois positions que vous pouvez avoir, et elles sont toutes les trois très difficiles. Alors, il peut y avoir des panachages, mais en gros, ça va être ça. C'est-à-dire que généralement, vous allez vous retrouver coincé plus ou moins dans une de ces trois situations, et elles sont toutes inconfortables. Première position, c'est vous continuez à vous plier. Vous continuez à gérer les humeurs, à éviter les sujets sensibles, à céder pour avoir la paix. Et cette position a un prix psychologique extrêmement élevé. Vous allez avoir des anxiétés chroniques ou des angoisses avant certaines interactions avec votre parent. Et après, vous allez avoir un épuisement. Après, on est fatigué. Et puis, vous allez avoir le sentiment diffus. Alors, ce n'est pas très précis, hein, c'est plutôt quelque chose de diffus qui vous donne l'impression de jamais être vous-même exactement dans cette relation. Et beaucoup de gens vont rester dans cette position pendant des décennies parce que c'est très difficile à identifier, c'est habituel, et donc c'est une forme de continuation de votre enfance, en quelque sorte, et ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous mettre en prison, vous emprisonner. Deuxième position, c'est vous continuer à rechercher la reconnaissance. C'est croire que si vous faites les bons efforts, si vous dites les bonnes choses, si vous avez la bonne conversation, le parent va comprendre, le parent va changer, le parent va reconnaître ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Cette position, en termes de temps et en termes d'énergie, c'est de loin la plus coûteuse. Elle vous coûte énormément, elle va vous épuiser. Il y a des gens qui passent 20 ans, 30 ans à attendre une reconnaissance qui, croyez-moi, ne viendra jamais. Elle ne viendra pas. Le parent narcissique est structurellement, totalement incapable de la donner. Ça, c'est une réalité documentée dans les études sur la rigidité du fonctionnement narcissique. Il y a des centaines d'études sur le sujet. Laissez tomber, le narcissique ou la narcissique ne changera pas. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette chose. Troisième position, couper le contact. Alors, c'est souvent la décision la plus saine que vous pouviez prendre. C'est la meilleure décision. Mais socialement, ça risque d'être la plus difficile à assumer parce que ça va dépendre de la culture dans laquelle vous êtes, etc. Mais en règle générale, vous allez avoir la famille, les amis, la société, plus ou moins en général, qui ont un discours qui reste très fort sur le devoir familial. C'est le même problème que les parents qui ont un enfant narcissique sur lequel tombent ses parents. C'est cette idée de couper contact avec votre parent, c'est vous allez être traité d'égoïste, d'ingrat, de mauvais fils, de mauvaise fille. Et le parent narcissique va utiliser ce levier, c'est sûr. Et l'entourage va le renforcer. Même des fois sans le savoir, hein, c'est pas nécessairement quelque chose qui est pensé pour vous faire du mal. C'est comme ça. Et donc, vous allez avoir une culpabilité énorme qui indique, en fin de compte, que la voix du parent est toujours active. Mais souvenez-vous que ça ne dit rien sur le bien fondé de votre décision. Peu importe ce que les gens disent, votre décision peut parfaitement, et dans ce cas-là, est parfaitement logique et c'est la bonne décision. Mais c'est difficile, c'est vrai, et c'est désagréable. Alors, pour sortir de l'influence, comment on fait ? Hein ? Parce que c'est bien joli tout ça, mais maintenant, quoi ? Alors déjà, je vais vous dire ce qui ne fonctionne pas. J'en ai déjà parlé. Ce qui ne fonctionne pas, c'est attendre la reconnaissance du parent. Elle ne viendra pas. Je vous ai dit pourquoi il y a quelques instants. Chaque tentative que vous allez faire d'obtenir cette reconnaissance, ça va vous remettre en position d'enfant face aux parents, et vous allez retomber dans les rôles. N'essayez pas d'avoir cette conversation définitive dont on parle constamment. Cette conversation n'existe pas avec un parent narcissique. Le parent va nier, il va retourner la situation, il va se victimiser, il va attaquer. vous allez vous en sortir encore plus confus, encore plus épuisé qu'avant, et sans avoir obtenu cette forme de clôture que vous désirez avoir. Il n'y aura pas de reconnaissance, il n'y aura pas de conversation qui mènera à un résultat, quel qu'il soit. Et vos ressentis ne seront pas validés non plus dans cette conversation. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que ce parent narcissique ne valide pas vos ressentis. Pourquoi voulez-vous qu'il ou qu'elle les assigne maintenant ? C'est absolument hors de question. Ce qui ne fonctionne pas non plus, c'est d'espérer que le parent change avec l'âge, avec la maladie, etc. Encore une fois, les études sur le fonctionnement narcissique sont extrêmement claires. Là-dessus, j'en ai fait une vidéo. Le vieillissement n'amène pas de remise en question. Très souvent, il va amplifier les traits existants, mais il n'y aura pas d'amélioration. Laissez tomber. Alors, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qui fonctionne alors ? Alors déjà, il est important pour vous d'identifier les comportements que vous avez hérités. Quels sont les comportements répétitifs dans vos relations adultes qui viennent directement des adaptations de votre enfance ? Quels sont les comportements où vous vous effacez systématiquement ? Quelles sont les situations ? Est-ce que vous attirez des personnes imprévisibles ? Est-ce que vous recherchez des personnes imprévisibles ? Est-ce que vous vous justifiez en permanence ? Nommez déjà ces comportements, c'est déjà une bonne chose pour pouvoir les modifier. Séparez la relation actuelle avec le parent de ce qui s'est passé dans le passé. Vous ne pouvez pas changer le passé, point à la ligne. Vous ne pouvez pas lui faire admettre ce qui s'est passé. Point à la ligne. Mais vous pouvez décider des conditions de la relation que vous allez avoir aujourd'hui. Quels sont les sujets de conversation que vous voulez avoir ? La durée des visites ? Combien de temps vous voulez les voir ? Et à quelle fréquence ? Quelles conditions pour la relation aujourd'hui devez-vous mettre pour que, pour que cela soit supportable pour vous ? Et si il est tout à fait insupportable de revoir votre parent, même 5 minutes, eh ben, coupez les contacts. Arrêtez de voir la relation à vous-même au travers du regard du parent. C'est-à-dire qu'il vous faut reconstruire une relation à vous qui soit filtrée seulement par vous. C'est-à-dire que vous apprenez à identifier ce que vous ressentez vraiment, ce que vous pouvez et ce que vous voulez vraiment, indépendamment de ce que le parent penserait. Il ne faut pas faire quelque chose parce que votre parent vous a dit que vous n'allez jamais le faire de toute façon pour essayer de lui prouver quoi que ce soit. Il ne faut pas faire ce que vos parents vous a dit que vous devriez faire parce que vous voulez suivre quoi que ce soit. Faites ce que vous voulez, vous. Commencez par identifier votre identité, vos besoins, vos envies, de façon à vous séparer de votre parent. Bien entendu, très souvent, pour ça, vous pouvez prendre un thérapeute qui connaît ce genre de personnalité, ce genre de problème pour vous aider. Vous allez en avoir besoin. Il y a de fortes chances que vous allez en avoir besoin pour vous suivre et pour vous conforter dans certaines décisions. Surtout, ne trouvez pas un thérapeute qui vous dit « Ben oui, mais tout le monde a des erreurs, blablabla. Vous avez mal compris quelque chose, c'est pas... voilà, » etc. Prenez un thérapeute qui connaît les problèmes avec les narcissiques et qui pourra vous soutenir dans ce genre de situation. Et après, pensez à vous de bosser. Voilà. YouTube trouve que vous devriez voir cette vidéo maintenant, surtout si vous avez aimé celle-ci.
Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.